спал в крови, 21-й год. Уходил в леса свободный народ, скрываясь от пыток, расстрелов, оков, воевать за советы без большевиков.
Petite introduction avant de vous donner l'interview d'André Kutuzov, qui est anarchiste de Sibérie. Donc voilà, André Kutuzov est accusé d'avoir écrit et diffusé un tract extrémiste. Le procès est actuellement en cours. André risque donc 3 ans de prison. Ce cas est malheureusement assez banal en Russie, mais il montre de façon caricaturale le fonctionnement d'une justice corrompue. Dans cette interview, André nous décrira aussi le rôle de la nouvelle force de police politique qui est le centre anti-extrémiste en Russie.
Своими руками свергнув царизм, они ожидали новую жизнь. Защитив революцию от всех врагов, получили террор от большевиков. Их травили газом и сжигали дома, на них бросали полки иностранных солдат, убивали родных и односельчан, тех, кто для народа победу ковал. 21-й год, последний год революции, отряды старых бойцов против новых палачей, выбравшие смерть стоя, надолго в сердцах остаются. Эту борьбу будут вечно помнить миллионы людей.
Je suis André Kutuzov de Russie, à Tiumen, un anarchiste et membre du mouvement Action Autonome.
Peux-tu nous parler du contexte de ton procès ?
En Russie, depuis quelques années, il y a ce que l'on appelle la lutte contre l'extrémisme. Quand l'État dit extrémisme, ce sont toutes les opinions qui s'opposent au gouvernement ou à ses agissements. Il y a quelques années, s'est créé au sein du ministère de l'Intérieur le département contre l'extrémisme, le centre E. Dans la réalité, c'est une véritable police politique. Alors mon procès, ça fait 1 an et demi, en octobre 2009, qu'on a organisé un rassemblement, pendant lequel j'ai demandé publiquement la dissolution du centre contre l'extrémisme, le centre E. Le rassemblement a eu lieu, et le centre E n'a visiblement pas oublié. Après, il s'est avéré que le centre E et les services fédéraux de sécurité ont intenté un procès. Le prétexte, c'était la distribution d'un tract qui contenait des appels à des actions extrémistes, selon l'article 280 du Code criminel de Russie. Mais ce tract, je ne l'ai vu que 6 mois après l'action, quand très tôt le matin, on a envahi ma maison pour faire une perquisition. Ensuite, on m'a conduit au FSB local. On m'a expliqué ce qu'il se passait. On m'a dit que mon chef d'inculpation, c'était la distribution de ce tract. Ce tract, c'est une simple feuille de papier avec un texte. Une partie du tract, c'est un copier-coller de notre véritable tract, celui que nous avions écrit pour l'action. Le reste, ce sont des choses qui ont été écrites vraisemblablement par les employés du centre E ou encore par le FSB lui-même.
Quel pourrait être l'issue du procès ? Que risques-tu ?
Selon la loi, ce crime est puni par diverses peines. Ça va de la simple amende jusqu'à 3 ans de prison. Je risque 3 ans de prison ferme.
Tu décris ton procès comme un théâtre de l'absurde. Que se passe-t-il exactement ?
En fait, je suis accusé d'avoir, avec ce tract, incité à la haine envers un groupe social, en l'occurrence la police. Dans les lois contre l'extrémisme, il y a ce genre de crime, incitation à la haine contre un groupe social. Mais il y a un problème. Ce n'est pas clairement dit ce que peut être un groupe social. Et ce qu'il n'est pas. Nulle part dans les lois, il est écrit ce qu'est un groupe social. En sociologie, il y a d'ailleurs des contradictions à propos de ce terme. Nous avons une expertise de l'université de Nijni Novgorod qui dit que la police ne peut pas être un groupe social. De ce fait même, le contenu de ce tract contre la police, selon les lois, ne serait pas extrémiste. Mais voilà, d'autres sociologues peuvent affirmer que la police est un groupe social. Donc l'utilisation de ce terme « groupe social » devrait être anticonstitutionnelle, car elle rend impossible l'égalité des hommes et des femmes devant la loi. Car tout dépend des experts. Si la juge choisit le sociologue qui confirme que la police est un groupe social, on est jugé coupable. S'il en choisit un autre, on est innocent. D'ailleurs, tout repose sur une bataille d'experts, ceux de la défense contre ceux de l'accusation. L'accusation possède deux types d'expertise. Une première linguistique qui confirme que ce texte est extrémiste. L'expertise pose en elle-même d'énormes questions. Avant tout, ces experts, ils sont employés par le FSB. C'est le FSB qui accuse et fait l'expertise, rompant ainsi de manière claire et nette avec le principe d'indépendance de l'expertise, car il s'agit d'une demande de travail qui rend l'expert directement dépendant du FSB. Ensuite, le tribunal déclare que les experts ne publieront pas leurs méthodes utilisées lors de l'expertise. La juge nous a répondu que la méthode était secrète, qu'elle avait été conçue par un institut linguistique du FSB et qu'elle ne la révélerait à personne. Encore une fois, l'expertise rompt un principe important de l'expertise judiciaire, car la loi dit que toute expertise doit être basée sur des méthodes communes et publiques, pour que d'autres experts puissent en vérifier les résultats. Si cela n'est pas possible sous prétexte qu'un expert dit « ma méthode est secrète », alors on pourrait accuser n'importe qui de n'importe quel crime, et ensuite le prouver par des méthodes secrètes. Et puis, il y a deux autres experts, un linguiste et un psychologue, qui ne seront pas employés par le FSB. Eux, ils travaillent au ministère de la Justice. Ils ont analysé le tract et ont conclu qu'il était extrémiste. Mais bon, je n'y porte pas plus d'attention, car je peux prouver que je n'ai jamais écrit ce tract. Mais dans le procès, sont apparus des faits notables. Par exemple, ces experts psychologues ou linguistes, pour leur analyse de texte, ont utilisé un programme informatique de pseudo-linguistique. Ce programme est distribué sur un site internet qui sont tenus par de véritables sectes. Medium.ru. Sur ce site, les hurluberlus, mis à part le programme informatique, parlent de défense contre le vampirisme, de flèches du temps, de livres avec des titres comme « La maison de la sorcière », etc. Ils luttent contre les énergies négatives. Ils recommandent aux lecteurs de mettre des œufs durs sous leur coussin. Si pendant la nuit ils pourrissent, alors c'est qu'ils doivent avoir des énergies négatives. Dans le tribunal, on a demandé à ces experts Est-ce que de vrais scientifiques peuvent vouloir se défendre contre le vampirisme? Mais là, le juge nous a interrompus. Et pourquoi pas? On a tous nos propres opinions, nos croyances, après tout. Donc, avec de tels experts dans le camp de l'accusation, il faut croire que les vrais scientifiques ne veulent plus travailler pour le FSB ou pour le gouvernement. Et que les seuls qu'ils veulent encore sont soit des vieux gâteux ou des jeunes qui sortent à peine de l'université. Avec le FSB, leur carrière est assurée. D'un autre côté, peut-on encore considérer ces gens comme de vrais scientifiques? De notre côté, celui de la défense, les experts sont des scientifiques respectés, docteurs ou doctorants des universités de Tumen ou encore de Nijni Novgorod.
Parlons un peu de centres anti-extrémistes et de lois anti-extrémistes. Logiquement, la cible, c'était les néo-nazis, mais ensuite, le centre est devenu une véritable police politique dont les cibles sont maintenant les mouvements sociaux et les militants. Comment cela s'est-il passé?
Le paradoxe, c'est que ces lois sont apparues avec la pression des libéraux et dans un premier temps avec des défenseurs des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme en Russie au milieu des années 90 ont demandé la création d'une loi pour poursuivre les fascistes pour incitation à la haine et aux conflits sociaux. Donc, la cible principale, c'était les néo-nazis. Les libéraux et les défenseurs des droits de l'homme ont exigé des lois pour pouvoir poursuivre des gens pour des convictions dangereuses et la diffusion des convictions dangereuses. Et là-dessus, tout le monde s'est fait avoir, parce qu'ils ont demandé des poursuites pour des convictions et pas seulement pour des actes. Ils n'ont pas soupçonné que le gouvernement utiliserait avec plaisir cette erreur. Et vers le milieu des années 2000, le gouvernement a joyeusement créé la loi fédérale 114, la loi d'opposition aux agissements extrémistes. Et ensuite, elle a un peu changé le code criminel. Le résultat, maintenant, nous avons tout un appareil de lois d'exception qui vise des pensées ou des convictions non conformes. C'est ça la loi fédérale 114 et les articles spécifiques du code criminel 280 et 282. Mais qui incite à la haine, qui ne le fait pas, quel test est extrémiste, cela se décide lors de l'expertise. Mais les expertises sont la plupart du temps réalisées par les services de répression eux-mêmes, ou la police ou le FSB. D'ailleurs, le FSB a créé un centre d'expertise juridique à l'intérieur de ces structures. Avant, il devait au moins demander des expertises au ministère de la Justice. Mais le plus terrible, c'est que ces lois sont trop floues sur la notion d'extrémiste. C'est aussi pourquoi c'est difficile à déclarer si un texte est extrémiste ou non. Voilà le problème. Évidemment, le pouvoir en profite pour l'interpréter à sa manière. Par exemple, quand un président dit « on va les buter jusque dans les chiottes », personne ne va l'accuser d'extrémisme. Mais si un opposant dit que le régime actuel est mauvais et qu'il faut le combattre par la force, il sera sans doute un extrémiste.
Quelles ont été les conséquences pour les mouvements contestataires avec l'apparition du centre E?
Avant la création du département contre l'extrémisme, c'était le FSB qui traitait des incitations à la haine et des conflits sociaux. Les gens qui travaillaient là-bas reçoivent un salaire pour traquer les extrémistes. De cette façon, le centre E a besoin de trouver des extrémistes, même s'il n'y en a pas. Sinon, ils perdraient leur travail. La lutte contre l'opposition s'est intensifiée drastiquement. dans toutes les régions du pays. La raison, c'est l'apparition du centre E. Pendant les dernières 3 ou 4 années, il y a eu de nombreux cas de procès contre des militants. D'ailleurs, ils se sont attaqués autant aux militants de gauche que de droite. Ce serait malhonnête de dire qu'ils ne luttent pas contre les fascistes. Ils peuvent arrêter des gens de gauche ou de droite dans les mêmes proportions. Néanmoins, avec les fascistes, ils ont des relations plus intimes, du fait qu'ils se trouvent sur la même longueur d'onde, vraisemblablement. Le centre E utilise plus souvent les fascistes comme des agents ou des informateurs ou autres. Cela n'a pas lieu qu'à Toumen. Le centre E agit à Moscou. Là-bas, il a grandement réprimé les mouvements antifascistes après l'attaque de la mairie de Khimki. À Novosibirsk, on persécute l'artiste Artyom Likhutov qui organise des manifestations absurdistes. Dans toutes ces régions, le centre E a besoin de faire un rapport. Les conséquences pour le mouvement libertaire sont évidentes. Maintenant, il y a plus de pression policière. Si avant le FSB ne se préoccupait pas trop des militants politiques, aujourd'hui le centre E est un véritable instrument pour combattre les mouvements sociaux. Mouvements sociaux qui sont grandissants à cause de la crise financière actuelle. La crise dans notre pays se prolonge et s'aggrave. Si on ne fait rien maintenant, il y aura plus en plus de répression.
Comment les militants ont réagi? Y a-t-il eu des tentatives de faire des campagnes contre le centre E?
Premièrement, c'est important de dire, le centre E et les lois contre l'extrémisme sont un tollé pour toute l'opposition en Russie, c'est-à-dire tout le spectre politique, libéraux, militants de gauche, militants de droite ou fascistes. Il y a quasiment un consensus de toute l'opposition. Et oui, il y a eu des multiples campagnes de divers groupes politiques. Les anarchistes, en 2009, ont organisé une grande campagne dans tout le pays. Il y a eu des rassemblements, des tables rondes, on a essayé de faire des communiqués de presse, etc. La campagne s'appelait extremiza.net. Encore après, il y a eu d'autres choses diverses, rassemblements, journées d'action. Mais cela n'a pas fait bouger le gouvernement. Le centre E n'a pas disparu. Maintenant, du 3 au 5 février 2011 en Russie, il y a des journées d'action communes contre les lois contre l'extrémisme, contre le centre E, et pour l'arrêt des poursuites contre les gens, y compris pour mon cas, qui ont été accusés avec ces lois. Bref, on peut dire que les campagnes existent et ont lieu parfois.
Et pour finir, en dehors de Russie, comment on peut aider les anarchistes russes à se battre contre le centre E? Et concrètement, que peut-on faire pour toi?
Je pense que c'est vraiment important de faire des actions de solidarité internationale. Souvent, le gouvernement russe se soucie de ce qu'on dit ou fait à propos de divers cas juridiques à l'étranger. S'il se passe quelque chose à l'étranger, sur mon cas, il sera traité d'une manière différente. car le cas sera en quelque sorte sorti des frontières russes. Ce qui serait bien déjà, c'est si l'information circulait, s'il apparaissait des articles ou des infos. Parfois, on sait très peu de choses sur ce qui se passe ici en Russie. Et donc, je pense que le mieux, c'est de faire des actions de solidarité, d'autant plus lors des jours de solidarité, et d'informer à partir de ça.
Москва, а то, что все в порядке, а то, что нам и дальше быть, ее придатку дать рабочие места, ее чинушам и воротилам, кому златоглавых почему-то не хватило, говорит Москва, а то, что мы тоже столица, и к столичным показателям надо стремиться, таким как семизначные номера телефонов, цены на проезд и жилье в спальных районах, говорит Москва. Говорит Москва. Москва постоянно и без лени. Георг Ведоносец забрался на оленя, машет палкой, разгоняя несогласных. Все хотят сесть рядом, чтобы было безопасней. Кремлевский перезвон разрывает наши уши, заставляет думать, ну его так может даже лучше. В 17 веке их освободили, что пары с чинушами нам тут палками грозили, говорит Москва. Говорит Москва. Москва, говорит 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 Москва.